Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du vendredi 1er décembre 2023. Avec vous, Eric Maniakiza. D'abord les titres. La trêve entrée en vigueur le 24 novembre entre Israël et le Hamas vole en éclats avec la reprise des combats à Gaza. Au Burkina Faso, formation des VDP incluant le respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme.
Nous avons initié cette formation de formateurs en collaboration avec le ministère de la Justice, de sorte que sur le terrain, les encadrés des VDP puissent être outillés en droits humains.
Réunion de la CEDEAO le 10 décembre à Abuja pour discuter des récents coups d'état militaire selon la présidence ivoirienne. Prison à perpétuité pour un Gambien, membre d'un escadron de la mort sous Yahya Jammeh. Un pas vers la justice selon les proches des victimes. Au Gabon, plus de 10 000 contributions citoyennes alimentent le dialogue national promis par les militaires pour début avril 2024.
Moi, je fais partie des autochtones, je suis Akélé, alors il faut qu'on garde l'essentiel.
Journée mondiale du sida, commémorée le 1er décembre, l'ONU estime qu'il est toujours possible de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'armée israélienne a repris ce vendredi ses frappes dans la bande de Gaza après d'intenses tractations dans la nuit pour une nouvelle reconduction de la trêve. Elle accuse le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. Le point avec Nanit Talani.
L'armée israélienne affirme dans un communiqué que la reprise de ses frappes vise une partie de Gaza, accusant le Hamas d'avoir violé la trêve en tirant vers le territoire israélien peu avant l'échéance de la trêve qui était fixée à 7 heures locales. Des témoins font état de vols intenses d'avions militaires et de drones dans les zones nord-ouest de la ville de Gaza, ainsi que de frappes aériennes et de tirs d'artillerie israéliens sur cette ville. Les médias palestiniens ont fait état de frappes aériennes et d'artillerie israélienne dans l'enclave après l'expiration de la trêve. Le Hamas n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat et n'a pas revendiqué la responsabilité des tirs. Dans le cadre de la reprise des combats, les autorités israéliennes ont réinstauré des restrictions qui étaient en vigueur avant la trêve. Dans plusieurs zones du pays, les écoles ne peuvent ainsi rouvrir que si elles sont dotées d'un abri aux normes. Plus tôt dans la nuit, 6 Israéliens ont été libérés par le Hamas, après 2 autres en journée, et sont rentrés en Israël dans le cadre d'échanges avec des prisonniers palestiniens détenus en Israël.
VOA Afrique, en direct de Washington.
L'ONU estime qu'il est toujours possible de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030, mais seulement si l'on donne les moyens et la reconnaissance à ceux qui sont sur la ligne de front. Les initiatives portées par différentes communautés au plus près de la lutte ne sont souvent pas reconnues, manquent de ressources et sont parfois même attaquées, a déploré l'ONU SIDA dans son rapport annuel publié à l'occasion de la Journée mondiale du sida commémorée le 1er décembre. Il y a 39 millions de personnes dans le monde qui vivent avec le VIH, le virus qui cause le sida. Parmi elles, près de 21 millions se trouvent en Afrique orientale et australe. Selon l'ONU SIDA, 53% de toutes les personnes séropositives en 2022 étaient des femmes et des filles. Il y a eu 1,3 million de nouvelles infections au VIH dans le monde l'année dernière. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a réagi pour la première fois à l'attaque de Djibo survenue dimanche. Il a qualifié ces attaques d'une envergure sans précédent et a salué la combativité des forces, des hommes ayant permis de mettre l'ennemi en déroute. C'était lors du lancement des travaux d'un nouveau centre hospitalier dans le sud-ouest du pays, Lamine Traoré.
Le capitaine Ibrahim Traoré en visite à Gawa dans le sud-ouest du pays a reconnu que c'était une grande attaque, mais a salué la combativité des hommes sur le terrain.
Ce qui a été le cas le week-end dernier est d'une attaque d'envergure sans précédent que nous avons vécue au niveau de Djibo. Heureusement, la combativité des hommes qui y étaient et aussi les décisions importantes qui ont pu être prises ont permis de mettre l'ennemi en déroute. Nous rendons hommage donc à tous ces combattants.
Le capitaine Traoré a expliqué combien la lutte est rude et combien la bataille sera longue parce que ceux qui combattent le pays veulent empêcher les Burkinabés de vivre. Ils tenteront toujours de mille manières, mais aucunement ils ne pourront faire fléchir le Burkina, a rassuré le chef de l'État. Les djihadistes aussi semblent montrer la même détermination et essaient d'étendre leurs opérations vers le nord du Bénin, du Ghana et du Togo. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les dirigeants de la CEDEAO vont se réunir le 10 décembre à Abuja pour traiter la crise des coups d'État militaires récents, annonce la présidence de Côte d'Ivoire. Davantage avec Alexandrine Rolignon.
La présidence ivoirienne l'a annoncé dans un communiqué à l'issue d'une rencontre mercredi à Abidjan entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le président de la commission de l'organisation régionale Omar Alieu Touré. Le dernier sommet de la CEDEAO remonte à début août après le coup d'État du 26 juillet au Niger qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Les chefs d'État avaient alors brandi la menace d'intervention militaire pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions et imposer de lourdes sanctions économiques et financières au Niger. Le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa, a affirmé que l'organisation n'a pas renoncé à l'option militaire, mais l'a suspendue. Au Niger, même à cause des sanctions, les populations souffrent parfois de manque d'électricité et de médicaments, mais les militaires sont toujours au pouvoir. Ils ont même accusé Mohamed Bazoum de tentative d'évasion. Des membres de la famille du président renversé ont affirmé hier être sans nouvelles de lui depuis le 18 octobre.
Des soldats de la garde nationale de Guinée-Bissau ont libéré dans la nuit de jeudi à vendredi deux membres du gouvernement qui étaient interrogés par la police avant d'échanger des coups de feu avec les forces spéciales, selon des sources militaires et du renseignement. Le ministre de l'économie et des finances et celui est le secrétaire d'État au trésor public avaient été convoqués jeudi matin par la justice et interrogés plusieurs heures durant sur un retrait d'une somme de 10 millions de dollars des caisses de l'État, puis placés en garde à vue. Ces soldats ont conduit les deux hauts responsables vers une destination inconnue, puis se sont retranchés dans une caserne située dans le quartier de Santa Lucia. Des tirs nourris ont ensuite été entendus vendredi matin dans ce quartier situé dans le sud de la capitale Bissau. Ces événements surviennent alors que le président Umaro Sissoko Embalo se trouve à Dubaï pour assister à la 28e conférence des Nations Unies sur le climat, COP 28. Un tribunal allemand condamne à la prison à vie un Gambien pour crime contre l'humanité et son rôle dans l'assassinat du journaliste Deida Haidara, cofondateur du journal privé De Pointe. La personne condamnée était membre d'un escadron de la mort sous l'ancien dictateur Yahya Jammeh, un jugement qualifié de petit pas sur la voie de la justice par les proches des victimes. Dilidico.
La cour de Celle a reconnu Bai Loi, 48 ans, coupable de crimes contre l'humanité, meurtre et tentative de meurtre dans trois cas au terme du tout premier procès mené en Allemagne sur les exactions commises sous le régime de Yahya Jammeh en Gambie. Monsieur Loi, qui avait clamé son innocence, a secoué la tête à l'énoncé du verdict. En tant que chauffeur des Junglers, un groupe paramilitaire, il a participé à des assassinats dans son pays entre 2003 et 2006, dont celui de Deida Haidara, cofondateur du journal privé The Point. Il était âgé de 58 ans au moment où il a été abattu d'une balle dans la tête à Banjul le 16 décembre 2004. Ce père de quatre enfants était considéré comme un doyen parmi les journalistes gambiens. Son fils, Baba Haidara, présent au procès, a qualifié le jugement d'important, précisant que ce n'est qu'un début. Réfugié en Allemagne depuis 2012, Bai Loi a été interpellé à Hanovre en mars 2021. Outre le meurtre de Deida Haidara, il a été aussi condamné pour son implication dans une tentative d'assassinat d'Ousmane Sylla, un avocat, Ida Diagne et Nyang Sarang Diop, qui travaillaient pour le journal The Point, et pour le meurtre de Daouda Niassi, un ancien soldat gambien.
Le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit de voter ce vendredi pour lever les dernières restrictions sur les livraisons d'armes au gouvernement somalien et à ses forces de sécurité, marquant la fin d'un embargo datant de plus de 30 ans. Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi son prochain voyage en Angola, signalant un engagement accru avec l'Afrique lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec le président João Lourenço. M. Biden a affirmé son intérêt pour la coopération bilatérale, en particulier dans les secteurs de l'énergie solaire, des infrastructures et de l'exploration spatiale. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, ce matin, nous retrouvons Michel Pierre-Joseph dans sa Minute Éco.
L'Éthiopie a conclu un accord d'allègement de la dette de 1,5 milliard de dollars avec ses créanciers. L'accord a été annoncé mercredi par le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Miretu. Les finances du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique ont été affectées par le conflit du Tigré. L'Éthiopie a déclaré qu'elle avait besoin d'environ 20 milliards de dollars pour reconstruire le nord de l'Éthiopie. Les organisateurs de la COP28 à Dubaï veulent convaincre un maximum de pays de s'engager en faveur d'un triplement des capacités installées d'énergie renouvelable d'ici 2030. Le triplement des énergies renouvelables, éolien, solaire, hydroélectricité, biomasse, est le premier ressort des scénarios pour la neutralité carbone. Si le monde veut rester sous 1,5 degré Celsius de réchauffement, c'est le levier le plus important pour remplacer charbon, gaz et pétrole, souligne l'Agence internationale de l'énergie. L'Arabie saoudite, la Russie et d'autres grands pays producteurs de pétrole ont annoncé jeudi qu'ils réduiraient encore leur production afin de soutenir la volatilité des prix. Mais les prix ont chuté immédiatement après la réunion virtuelle des ministres de l'OPEP. Riyad a annoncé qu'il prolongeait sa réduction de la production de pétrole d'un million de barils par jour jusqu'en mars 2024. Moscou a déclaré qu'elle réduirait ses exportations de pétrole de 500 000 barils par jour jusqu'en mars.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le Maroc domine toujours le classement FIFA Zone Afrique.
Oui, 13e mondial, le Maroc trône toujours sur le continent africain, devant le Sénégal 20e et la Tunisie qui réintègre le top 30 mondial pour s'installer à la 28e place. Idem pour l'Algérie, 30e mondial, grâce à ses deux victoires en éliminatoire du mondial. La Côte d'Ivoire se classe 50e sur le plan mondial. La grosse progression est à mettre à l'actif des Comores qui gagnent 9 places pour se positionner au 119e rang. C'est leur meilleure position. Ce bond des Koilan Cats est dû à leurs deux victoires consécutives, 1-0 contre le Ghana et 4-2 face à la République centrafricaine lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique.
Le Marocain Mehdi Benassia rejoint Marseille comme conseiller sportif.
L'ancien international marocain et ex-défenseur de la Juventus Turin ou du Bayern Munich a été nommé conseiller sportif de l'Olympique de Marseille où il a été formé. L'annonce est faite par le club français. Mehdi Benassia, 36 ans, vient combler le vide laissé par le départ de Javier Ribalta dans la foulée de la tumultueuse réunion entre dirigeants et représentants des groupes de supporters au mois de septembre. Il n'aura toutefois pas le même statut que l'Espagnol qui était membre du directoire. Benassia sera, lui, placé sous les ordres de Stéphane Tessier, désormais directeur général du club marseillais. L'OM précise que le Marocain devra apporter son concours à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club pour attirer, former et retenir les meilleurs talents. Marseille, 12e de Ligue 1, accueille Rennes dimanche pour le compte de la 14e journée.
En NBA, Yacouba, Mark Cuban va vendre sa participation dans les Mavericks.
Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, est sur le point de finaliser la vente de sa participation majoritaire dans la franchise de NBA aux familles qui dirigent le groupe de Casino Las Vegas Sands Corporation. NBC a indiqué que M. Cuban a déclaré qu'il recevrait 3,5 milliards de dollars dans le cadre de cette transaction qui doit être approuvée par les propriétaires des franchises de la NBA pour être finalisée. Les familles de Myriam Adelson et de son gendre Patrick Dumont, président de Las Vegas Sands Corporation, expliquent qu'elle espérait conclure l'achat d'ici la fin de l'année.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Burkina Faso confronte l'insécurité et cherche des moyens pour concilier la lutte contre le terrorisme tout en préservant les droits de l'homme. Des sessions de formation sont lancées pour préparer les encadreurs des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, à intégrer ces principes dans leur mission sur le terrain. Ces supplétifs de l'armée bénéficieront ainsi de rudiments pour aborder cette problématique essentielle. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La présente formation se tient à Koudougou, à une centaine de kilomètres de la capitale. Des encadreurs des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, à l'école des droits humains. Ils prennent ici des modules pour ensuite les dispenser sur le terrain, aux supplétifs de l'armée. Le lieutenant-colonel Thomas Savadogo est le commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie.
Nous avons initié cette formation de formateurs en collaboration avec le ministère de la Justice, de sorte que sur le terrain, les encadrés devraient plus être outillés en droits humains afin qu'à l'issue de ces formations, ils repartent sur le terrain, encadrer ces VDP pour que ces VDP puissent avoir les notions élémentaires en respect des droits humains, de sorte que les actions puissent être vraiment conduites selon les règles édictées. À terme, nous aurons environ 240 formateurs qui seront formés. Et à l'issue, en fait, ces formateurs-là seront engagés sur le terrain à encadrer, à apporter ces enseignements en fait aux VDP dont ils ont la charge.
La formation est construite autour d'un manuel qui a été élaboré avec l'ensemble des acteurs concernés. Adiaratou Zongo, directrice générale des droits humains.
Vous avez dans ce manuel des éléments d'information utiles à l'action des VDP sur le terrain. D'abord sur les droits humains de façon générale, sur la protection des enfants, la protection des femmes, des personnes déplacées internes, également sur la protection des réfugiés. Et également, nous revenons dans ce manuel sur les droits spécifiques qui, au regard du contexte sécuritaire difficile, peuvent se trouver menacés sur le terrain.
La présente formation est la septième du genre, selon Rodrigue Bayala, le ministre de la Justice.
Ça nous permet d'avoir non seulement des VDP qui ont connaissance, bien entendu, de comment effectivement ils peuvent protéger et faire la promotion des droits humains. Et vous savez également que dans le cas de cette lutte, il est nécessaire, sinon judicieux, que nous trouvons un équilibre entre la réponse militaire que nous apportons au terrorisme. Il faut trouver un équilibre entre cette réponse et la nécessité de la protection des droits humains.
Tous les VDP des 13 régions seront formés. Plus de 180 membres des forces de sécurité et des forces armées nationales ont déjà bénéficié de la formation des formateurs des VDP sur un total de 240 prévus. La formation est assurée par des spécialistes issus du ministère de la Justice, du parquet militaire, de l'UNICEF et des autres agences des Nations Unies au Burkina Faso. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les prémices du dialogue national inclusif se dessinent au Gabon, avec plus de 10 000 contributions citoyennes recueillies pour alimenter les discussions lors du rendez-vous majeur prévu pour début avril 2024. Initié en octobre par le gouvernement de transition, la collecte des propositions citoyennes a pris fin hier jeudi, marquant ainsi une étape cruciale pour ce processus. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangnze.
Le ministère gabonais de la réforme des institutions vit probablement les dernières heures de l'appel à contribution au dialogue national inclusif d'avril prochain. Dans les couloirs du bâtiment, un flux important d'usagers souhaitant participer au débat. Chacun se fait enregistrer sur base de ses préoccupations. Suzanne Mazemé Mayemba, militante associative.
Moi, je fais partie des autochtones, je suis Akélé. Alors, il faut qu'on garde l'essentiel. Je crois qu'on parle plus trop de circoncision, mais ça devrait être. Les femmes ne sont plus socialisées comme ça devait être fait avant, dans le sens où il fallait qu'on les emmène en forêt. Mais ces choses ne sont plus faites. Voilà.
Qu'ils soient jeunes, vieux politiques ou apolitiques, résidents ou non au Gabon, les contributeurs ont le libre choix sur tous les sujets d'intérêt national. Retraité civil, Jean-Olivier vient de consigner ses préoccupations par écrit.
Le dernier retraité gabonais doit toucher au moins 350 000, qui n'a pas d'enfant, avec une maison de deux chambres. Le retraité gabonais qui a beaucoup d'enfants doit toucher 650 000 avec une maison de quatre chambres et de l'espace à l'intérieur. Troisième point, il doit ouvrir les banques postes dans les départements.
Alexandre Barreau-Chambrier, président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, sera de la concertation.
L'objectif de cette transition, c'est de prendre date pour des élections transparentes, des élections libres et apaisées. C'est cela qui est recherché.
Selon le gouvernement de transition, la feuille de route du dialogue national inclusif ne va occulter aucune préoccupation. Les contributions attendues sont d'ordre politique, socio-économique et susceptibles de contribuer à la réécriture d'une nouvelle constitution, entre autres. Arcel Mourguema, secrétaire technique au ministère de la Réforme des Institutions.
Après la phase d'appel à contributions publiques, nous irons vers la phase de l'analyse des contributions qui nous permettront de découvrir qu'est-ce que les Gabonais pensent domaine par domaine, secteur par secteur. Et au terme de cette analyse, nous allons faire un rapport sur ce que pensent les Gabonais dans les différents pans de la vie de notre pays.
D'après le secrétariat en charge de la collecte des avis de citoyens, toutes les contributions seront lues, analysées et prises en compte. L'inventaire des problèmes identifiés et les esquisses de solutions feront l'objet d'une restitution officielle en janvier prochain. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, le nouveau code minier suscite la controverse avec des réserves émises sur la nouvelle politique d'exploitation minière par les députés de tous les bords, malgré son adoption à l'Assemblée nationale et au Sénat pour remplacer le précédent texte en vigueur depuis 2016. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules-Ntap.
Au lendemain de l'adoption du nouveau code minier, le réseau de lutte contre la faim, RELUFA, a révélé les dégâts causés par l'exploitation semi-mécanisée de l'or sur des sites miniers dans la région de l'Est.
L'entreprise minière doit donner les fonds pour qu'on ferme, et c'est clair dans la loi. Est-ce que c'est fait? Si c'est fait, pourquoi c'est pas fermé? Ça veut dire que le gouvernement aussi a aussi une partie de responsabilité si c'est pas appliqué. C'est pour ça que c'est un sujet qu'on doit amener ça en public pour discuter.
La non-application de cette loi a de l'impact sur l'environnement, mais également sur la santé des riverains. Bertrand Ateba est infirmier dans la région de l'Est.
Des décès dus aux noyades, des fractures, des éboulements de terrain, des destructions des maisons et la destruction de l'environnement. Et vous savez, la plupart des sociétés utilisent des éléments chimiques et nous avons relevé des maladies de la peau, des maladies cardiovasculaires. Nous avons beaucoup de cas de cancer.
Lors de la plénière pour l'adoption du nouveau code minier, les députés de l'opposition ont été les premiers à critiquer la nouvelle politique minière du Cameroun. Roland Ngo ici, député du Parti camerounais pour la réconciliation, PCRN.
Vous parlez de l'instauration du partage de production alors même que vous dites encore que l'État central reste le détenteur exclusif du patrimoine national et peut l'octroyer à qui il veut.
Le nouveau texte consacre la Société nationale des mines, Sonamine, comme bras séculé de l'État pour la gestion des ressources minières. Joshua aussi, député du Social Democratic Front, SDF, un autre parti de l'opposition, n'y croit pas du tout.
Combien d'entreprises du portefeuille de l'État ont pu rapporter de l'argent aux contribuables camerounais? Pratiquement zéro. Donc la Sonamine ne fera pas exception.
La loi portant code minier a certes réservé aux locaux la possibilité de faire de l'exploitation minière artisanale, mais certains représentants de la nation s'inquiètent de la mise à l'écart du secteur privé. Alioum Fadil, député RDPC, le parti au pouvoir.
Ne serait-il pas plus judicieux pour l'État d'agréer une bonne dizaine de traders nationaux dans le secteur de l'or et du diamant?
Le nouveau code minier a été adopté dans un hémicycle quasi vide, mais le gouvernement s'est dit satisfait et annonce que ce texte permet désormais au Cameroun de passer au statut de pays producteur de minerais. Fougalactus, ministre des Mines par intérim.
Le Cameroun peut construire ses réserves en or. Le Cameroun peut tirer maximum de bénéfices
par partage de production, que les Camerounais s'impliquent davantage, mieux, dans les secteurs de carrière et semi-mécanisés.
Le gouvernement camerounais dit s'être inspiré du modèle brésilien pour élaborer le nouveau code minier qui doit être promulgué par le président Paul Biya. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Bénin voit émerger de nouvelles habitudes d'achat, privilégiant le e-commerce pour sa praticité. Toutefois, cette transition vers la vente en ligne présente des défis. Le reportage de Ginette Fleur-Adandé.
Le secteur est florissant et embrasse tous les domaines. Même les produits locaux n'échappent pas à ce vent de modernité. Le consommateur béninois se laisse tenter par cette possibilité d'avoir accès à divers produits du monde depuis son canapé.
C'est pratique pour nous qui n'avons pas le temps de sortir là rapidement par le biais du portable, des réseaux sociaux. On a les articles et on achète tranquillement. J'ai eu beaucoup d'expérience dans le domaine et aujourd'hui, je n'achète que chez des gens que je connais, que je maîtrise correctement le site.
Mais chaque chose a souvent son réveil. Le secteur du e-commerce ne fait pas exception. La vente en ligne a déjà déçu beaucoup de personnes et bouleversé de nombreuses vies. Certains ont juré qu'on ne les prendra jamais plus en train d'acheter en ligne.
Quelques jours après, j'ai rencontré un frère qui a acheté le même sac, presque la moitié de ce que moi je l'ai payé.
Moi je fais les photos réelles pour éviter les déceptions.
Quand c'est sur WhatsApp, moi je conseille aux personnes ne payez pas sans voir le produit. S'il y a le souci de distance, si vous avez une personne qui vit dans la localité de l'e-commerçant, vous pouvez par exemple envoyer cette personne vérifier le produit. Le gouvernement a mis en place une plateforme de dénonciation www.denonciation.bj. Vous pouvez aller sur la plateforme ou appeler le 155.
Mais ce n'est pas seulement pour le consommateur que la vente en ligne présente des méfaits. Beaucoup de vendeurs se sont retrouvés face à des situations qui leur ont fait regretter d'avoir emprunté cette voie.
Il faut être connecté, il faut être disponible pour répondre aux clients. Tu vends à des milliers de kilomètres, mais pour lui passer par des intermédiaires qui me faisaient voir de toutes les couleurs. Ils donnent un prix bas pour la commande et dès que c'est là, le transport est le triple ou le quadruple du prix de commande.
Devant la floraison des plateformes de vente, le Bénin s'est doté d'un arsenal juridique que doivent connaître les cybervendeurs nationaux comme étrangers. Il y a non seulement le code du numérique, mais également la loi portant protection du consommateur, la loi portant concurrence et le code pénal. Aimé Moussa Elisha est juriste.
Toute personne qui se serait rendue coupable de ces faits-là pourra être poursuivie et sera sanctionnée d'une peine allant de 1 an à 5 ans d'emprisonnement, sans compter bien évidemment les amendes. Les amendes qui varient de 1 million à 5 millions et bien plus parfois lorsqu'il y a récidive. Et lorsque nous sommes dans le cas d'un vol, on dira simplement que la personne sera poursuivie et sanctionnée d'une peine allant de 1 an à 5 ans toujours, mais d'une amende variant de 100 000 francs à 1 million de francs.
Mais toutes ces mesures juridiques contraignantes et une vague d'arrestations de cybercriminels n'enlèvent pas au secteur ses avantages. Géry Dabolinon est web développeur et consultant en commerce international à Cotonou.
C'est un marché prometteur et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce marché et qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que le e-commerce en Afrique puisse vraiment décoller. Et il y a beaucoup de critères à prendre en compte lorsqu'on veut faire du e-commerce en Afrique. Si on doit fonctionner de la manière dont le e-commerce se fait sur ces autres continents, on va passer totalement à côté.
Selon les statistiques, le commerce en ligne en Afrique ne représente que 2% du marché actuel et le Bénin n'en possède qu'une infime partie. Le gouvernement veut transformer le Bénin en une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. Mais les consommateurs béninois hésitent encore à faire le saut vers l'inconnu. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui avec Eric Manlakiza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Georges Léonard Sagno a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.